Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au Vendée Globe, une course à la voile autour du monde, en solitaire et sans escale de 45 000 km, ni assistance, qui oppose des voiliers monocoques de 60 pieds. La classe IMOCA régit les caractéristiques des voiliers monocoques de 60 pieds, soit 18,28 m de long, principalement destinés aux courses océaniques, en solitaire, telles que le Vendée Globe et la route du Rhum, ou en double, comme la Transat Jacques Vabre, auquel leur développement est intimement lié. Le Vendée Globe est surnommé l'Everest des mers pour sa difficulté. La course, créée par Philippe Gentaut, se déroule tous les 4 ans et s'est courue en 1989, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024 pour la 10e édition. Elle est organisée depuis 2004 par la Société anonyme d'économie mixte Vendée, ou SAM Vendée, organisation créée en 2004 par le Conseil général de Vendée, en vue de la reprise de la course au large après la faillite de Philippe Gentaut. La ligne de départ et celle d'arrivée sont situées au large de la commune des Sables-d'Olonne, en France. Les coureurs doivent respecter des marques de parcours particulièrement simples et naturelles. Ils doivent laisser sur bâbord, à gauche, les trois caps que sont le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, le cap Lewin, au sud-ouest du continent australien, et le cap Horn, partie chilienne de l'archipel de la Terre des Feux, comme étant le plus austral de l'Amérique du Sud. Lorsqu'ils sont aux latitudes les plus au sud, les coureurs, pour gagner du temps dans certaines configurations météorologiques, peuvent choisir de s'approcher de l'Antarctique, mais ils prennent alors le risque d'une collision avec des nombreux icebergs ou grouleurs, petits morceaux d'iceberg à peine visibles, qui se détachent de la banquise. Le radar, dont sont généralement équipés les bateaux, ne permet pas toujours de les détecter, et une vieille visuelle permanente, de toute façon inopérante de nuit, est impossible en solitaire. En cas de collusion, dans ces régions éloignées de toute terre habitée, les marins ne peuvent compter que sur leurs concurrents les plus proches pour les secourir. Pour l'édition 2020, les concurrents sont tenus de respecter le dispositif de séparation du trafic entre le Cap Finistère et les Canaries. Ils doivent en outre éviter le long des côtes mauritaniennes, une zone présentant des risques de piraterie. L'épreuve commence par une descente vers le sud de l'océan Atlantique, qui leur fait d'abord traverser le golfe de Gascogne, souvent agité par des dépressions d'ouest. Le départ a lieu en novembre, donc à la mauvaise saison en Europe, avant d'atteindre la zone des Alizés, plus favorable. Les coureurs traversent ensuite, au niveau de l'équateur, le poteau noir, une zone de calme aux contours invariables et difficilement prévisible entre le Brésil et l'Afrique. Plus au sud, ils retrouvent une région plus ventés, mais doivent éviter l'anticyclone de Sainte-Hélène, zone de vent faible qui s'étale largement entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ils passent le cap de Bonne-Espérance et s'engagent dans l'océan Indien. La partie la plus difficile de la course débute lorsque les voiliers atteignent la latitude des 40e rugissants, puis celle des 50e hurlants. Ces régions sont balayées en permanence par des dépressions très creuses qui lèvent des mers particulièrement fortes, car aucune terre ne bloque les vagues. Le courant des aiguilles, au niveau de la pointe sud de l'Afrique, vient accroître la dangerosité de la mer en accentuant la hauteur des vagues, tandis que la cordillère des Andes contribue à creuser des dépressions dans la région du Cap Horn. Les voiliers doivent rester à ces latitudes en traversant d'ouest en est l'océan Indien, puis l'océan Pacifique, par le sud de l'Australie, tout en longeant à une certaine distance l'Antarctique. Facteur aggravant en cas de naufrage ou d'accident grave, la zone traversée est très éloignée des terres habitées et il n'existe pratiquement aucun trafic maritime. Après avoir franchi le Cap Horn, les voiliers entament la remontée de l'océan Atlantique en coupant leur trajectoire aller avant de retrouver l'hémisphère nord. Ils doivent affronter tous les obstacles météorologiques qu'ils ont connus durant la descente. Avant d'arriver au Sable d'Olonne, ils doivent généralement affronter les tempêtes qui, à cette période, janvier-février, sont les plus sévères de l'année. Le concurrent ne peut embarquer aucune autre personne sur le bateau, sauf en cas d'urgence avérée. Par exemple, le naufrage de notre concurrent. Lors de la troisième édition, Peter Goose a sauvé Raphaël Dinelli en l'accueillant à son bord et en le déposant à Hobart. De même, durant la sixième édition, Vincent Rioux a secouru Jean Lecam, chaviré non loin du Cap Horn. Durant la neuvième édition, Jean Lecam a secouru Kevin Escoffier. Les concurrents ne peuvent mettre pied à terre au-delà de la limite de la plus grande marée haute. Lors du Vendée Globe 2000, Yves Parlier a effectué une réparation de son bateau en s'abritant dans une crique. Il a pu rejoindre la terre sans dépasser la limite des plus hautes marées afin de déséchouer son bateau et de pêcher des moules géantes. Après avoir rematé, il est reparti en course. Il est toutefois possible pour un concurrent connaissant une avarie de retourner au Sable d'Olonne et de refranchir la ligne de départ, dans une limite de 10 jours après le départ officiel. Ainsi, lors de l'édition 2008, Michel Desjoyeaux était revenu réparer un problème électrique et de ballast avant de repartir avec 40 heures de retard, ce qui ne l'empêcha pas de remporter l'épreuve. Ce 15 janvier 2025, Charlie Dallin, sur Massif Santé Prévoyance, a réalisé 64 jours, 19 heures et 22 minutes pour l'édition 2024-2025, dixième du nom. Il a pulvérisé de plus de 9 jours le temps de référence du parcours de 74 jours, 3 heures et 35 minutes, établi par Armel Lecléac lors de l'édition 2016-2017. Il aura parcouru en réalité la distance de 27 667 milles nautiques, à 18 nœuds de moyenne, soit 51 420 km à la vitesse de 33 km/h. En tant que vainqueur, il aura remporté 200 000 euros, 50 000 euros de moins que Néluminé en huitième de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros. Les derniers milles nautiques ont semblé d'autant plus interminables au navigateur normand de 40 ans, né au Havre, qu'il les a avalés de nuit sur son monocoque bleu et vert, dans de petits airs et des températures négatives. Pour atteindre la ligne d'arrivée, il a contourné par le nord une zone sans vent et entrepris une lente descente le long des côtes bretonnes. Jusqu'à l'épuisement, il a guetté la moindre risée, tout en s'appliquant, grâce à la pleine lune, à préserver son foaleur Imoca d'une potentielle rencontre avec un filet de pêche ou d'une collusion avec un chalutier, susceptible de le priver d'un sacre auquel il travaille depuis 4 ans. Johan Richomme est arrivé deuxième, 22 heures après Charlie Dallin. Côté féminin, Justine Métraux a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe le samedi 25 janvier 2025 à 14h38, en bouclant le tour du monde en 76 jours, 1h et 36 minutes. La Suissesse s'offre également la meilleure performance d'une navigatrice dans l'histoire du Vendée Globe, en améliorant le record de Clarisse Kremer de 11 jours. Quant à la Benjamine de l'épreuve, Violette d'Orange, 23 ans, elle est devenue la plus jeune femme de l'histoire à boucler cette course quadriennale autour du monde, réalisant 90 jours, 22 heures et 37 minutes. Architecte naval formé au Royaume-Uni, Charlie Dallin raffole du solo, une discipline qui exige une assaise de moine soldat. Il a conçu sa monture comme une extension de lui-même, avec l'objectif ultime de rafler ce trophée du Vendée qui lui a filé entre les doigts lors de la dernière édition 2020-2021. Après avoir mené la course durant plus de 60% du parcours et avoir franchi la ligne d'arrivée en première position le 27 janvier 2021, Charlie Dallin s'est vu relégué à la deuxième place, derrière Yannick Bestavin sur Maître Coq, pour 2h30 après 80 jours de navigation. Ce dernier, qui a cette année abandonné au niveau de la Patagonie avant de repartir hors course, avait bénéficié d'une bonification chronométrique pour sa participation aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier naufragé. C'est tout à fait normal que les coureurs qui se sont déroutés aient bénéficié de bonifications, avait relativisé Charlie Dalin. Très sport. Yannick Bestavin, né le 28 décembre 1972 à Saint-Nazaire et arrivé donc troisième, a été déclaré vainqueur du Vendée Globe 2020-2021. Ingénieur de formation, il était le co-concepteur de l'hydrogénérateur What and See imaginé par Eric Tabarly. Né de parents landais, Yannick Bestavin découvre la voile lors d'un stage d'été sur le bassin d'Arcachon, au club nautique Tossade Cassis, puis devient moniteur du cercle de voile d'Arcachon, club au sein duquel il commence à régater régulièrement. Avant le record de Dalin, en 2025, c'est Armel Lecléache, surnommé le Chacal, né le 11 mai 1977 à Landivisiau, dans le Finistère, qui était le recordman du temps de circumnavigation en solitaire dans cette épreuve, en remportant la 8e édition en 2016-2017 en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Le 27 janvier 2013, au Sable d'Olonne, c'est François Gabart, né le 23 mars 1883 à Saint-Michel, en Charente, qui avait remporté la 7e édition du Vendée Globe en 78 jours, 2 heures, 16 minutes, 40 secondes. Sur les bateaux massifs, Gabart a remporté ensuite la Route du Rhum 2014 dans la catégorie classe IMOCA et la Transat Jacques Vabre 2015 avec Pascal Bidégory et la Transat anglaise 2016, sa première victoire solitaire en multicoque. Le 17 décembre 2017, il pulvérise le record du Tour du monde en solitaire sur son trimaran de classe ultime en 42 jours, 16 heures, 40 minutes, 35 secondes, améliorant de plus de 6 jours le précédent record qu'avait établi Thomas Coville en 2016. Le seul à avoir remporté deux fois le Vendée Globe, 2000-2001 et 2008-2009, est Michel Desjoyeaux, surnommé le professeur, né le 16 juillet 1965 à Concarneau dans le Finistère. Il compte plus de 25 victoires à son actif, dont 3 victoires dans la solitaire du Figaro. C'est l'un des navigateurs en solitaire les plus titrés. Il habite et s'entraîne à la forêt Fouénan, près du centre d'entraînement national pour la course au large. Il a fondé au printemps 1999 une écurie de course au large, mer agitée. Entre les deux victoires de Michel Desjoyeaux, Vincent Rioux, surnommé le Terrible, né à Pont-l'Abbé dans le Finistère le 9 janvier 1972, et vainqueur du Vendée Globe en 2004-2005. Il a un passé de régatier, mais aussi un grand passé technique. Il a été le préparateur de Michel Desjoyeaux pour le Vendée Globe 2000. En 1996-1997, c'est Christophe Auguin, né le 10 décembre 1959 à Grandville, dans la Manche, qui l'emporte. Parallèlement à son activité de professeur de technologie dans un lycée cherbourgeois, Christophe Auguin remporte la solitaire du Figaro en 1986 et se tourne à partir de 1989 vers la navigation autour du monde en solitaire. Il aura beaucoup navigué avec Alain Gauthier, né le 8 mai 1962 à Lorient, connu pour avoir remporté lui aussi le Vendée Globe, mais en 1992-1993. Après avoir terminé sixième de la première édition, Alain Gauthier se spécialisera ensuite dans la préparation et l'assistance aux équipes de course au large. Mais le premier vainqueur du Vendée Globe en 1989-1990 est Titouan Lamazou, né le 11 juillet 1955 à Casablanca. Son père, ingénieur et dirigeant d'entreprise du secteur pétrolier, est amené à s'expatrier. C'est dans le cadre de ces pérégrinations que le jeune Antoine naît à Casablanca au Maroc. Revenu en France, la famille s'installe à Buros, dans la banlieue nord de Pau, commune située à une dizaine de kilomètres d'Astis, qui fut le berceau de la famille paternelle, d'origine béarnaise. Les Lamassou donnèrent d'ailleurs 4 mères à cette commune. Après avoir poursuivi des études à Pau, d'abord au collège Jeanne d'Albret, puis au lycée Louis Berthoux, Titouan décide de suivre des études artistiques entre 1971 et 1974 à l'école des Beaux-Arts de Lumigny à Marseille, où il a pour professeur le peintre et navigateur Yvon Lecor, avant d'intégrer l'école des Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Après donc un passage aux Beaux-Arts, il prend le large à 18 ans. C'est grâce à ses voyages que Titouan réalise ses premiers ouvrages en 1982. Sa rencontre avec Éric Tabarly, service militaire à 21 ans sur le Penduit 4 autour du monde, le conduit à poursuivre son parcours maritime jusqu'à la victoire, le 16 mars 1990, dans le premier Vendée Globe, en 1990, avec Écureuil d'Aquitaine 2, et au titre de champion du monde de course au large en 1991. En 1991, Tito Lamassu fonde avec Florence Artaud le trophée Jules Verne, première course sans limite de taille pour les navires. Nommé artiste de l'UNESCO pour la paix en 2003, Titouan Lamassu réalise de nombreux portraits de femmes entre 2001 et 2007 pour son projet Zoé Zoé, femmes du monde. Depuis, il s'engage activement auprès d'associations caritatives pour la défense des droits des femmes et des enfants dans le monde.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.